Chapitre 2. Clarifier et définir ses limites. La zone de doute. Alors, puisqu'elles sont si bénéfiques, ces limites, pourquoi sont-elles tellement difficiles à poser que vous en soyez venu à lire ce livre? Eh bien, étrangement, c'est très facile de poser ses limites. C'est même parfois tellement aisé que vous le faites déjà régulièrement sans même vous en rendre compte. Le paradoxe n'est qu'apparent. Nous possédons tous des zones mentales dans lesquelles sont clairement définies ce qui est acceptable et ce qui est inacceptable. Bien sûr, chacun a les siennes. Ce qui est acceptable pour moi peut être tout à fait inacceptable pour quelqu'un d'autre et réciproquement. De même, ces zones seront variables en fonction des circonstances et de l'état émotionnel du moment. Le jour où vous êtes fatigué, stressé ou énervé, votre zone d'inacceptable a toutes les chances d'augmenter, au détriment de votre bonhomie habituelle. Inversement, une bonne nouvelle peut nous rendre brusquement très tolérants aux contrariétés. En dehors de ces fluctuations personnelles et circonstancielles, nos zones d'acceptable et d'inacceptable fonctionnent très bien, d'une façon non consciente et automatique, pour signaler efficacement nos limites à nos interlocuteurs. Ce n'est que lorsque nous entrons dans une zone de doute, faite de fausses acceptations et de fausses inacceptations, que les choses se gâtent et que notre capacité à faire respecter nos limites se dégrade. Le langage non-verbal. Je suis une maman ordinaire. Je considère qu'un petit garçon qui a couru toute la journée, qui a transpiré, qui s'est roulé dans la poussière en jouant, doit prendre une douche tous les soirs. C'est très clair dans mon esprit. Que mon fils ne prenne pas sa douche est bien localisé dans la zone de l'inacceptable. C'est pourquoi lorsque je dis « Allez, tu passes à la douche maintenant », il y va sans trop rechigner. Mais je vous l'ai dit, je suis une maman ordinaire. Certains soirs, fatigué, en retard dans mon organisation domestique, n'ayant plus d'énergie, je m'affale sur le canapé et je me dis « Pfff, il va falloir doucher le petit. Après tout, aujourd'hui c'est mercredi. Sans école, il n'a pas beaucoup couru et transpiré. En plus, il n'a pas fait très chaud. Peut-être qu'on pourrait faire l'impasse sur la douche ce soir. » Puis, l'autodiscipline reprenant le dessus, j'arrive à me raisonner et je dis, comme d'habitude à mon fils, « Allez, tu passes à la douche maintenant. » Mais ces jours-là, il prend un ton plaintif et répond « Oh non, pas ce soir, maman, c'est mercredi. Je n'avais pas école, alors je n'ai pas beaucoup transpiré. En plus, il n'a pas fait très chaud. Je la prendrai demain, ma douche. » Que s'est-il donc passé? Il lit dans vos pensées, ce petit, me direz-vous. Pas dans mes pensées, non. Mais comme tous les enfants, il lit couramment le langage non-verbal. Mon intonation, le volume de ma voix, mes hésitations, mes silences, les expressions de mon visage, ma gestuelle, tout est décodé et retranscrit en verbal. Il en va de même pour les adultes, même s'ils sont moins performants.